Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie-Xavière Vauquier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Mobile Impulse. Mobile Impulse, c'est le réseau des acteurs de la mobilité intelligente en France qui rassemble depuis plus de 50 ans les professionnels publics et privés pour fédérer, innover et accélérer les transitions environnementales, sociales et économiques dans les transports. Votre objectif chez Mobile Impulse, mettre en lien les décideurs, promouvoir les solutions durables et éclairer les enjeux de la mobilité grâce à la data, au retour d'expérience et à l'innovation collective. J'ai juste
c'est ça.
Jusque-là.
C'est tout à fait ça.
Très bien. Donc Mobile Impulse agit comme un catalyseur entre acteurs publics et privés pour des mobilités plus durables. Comment votre association accompagne-t-elle concrètement les collectivités, les entreprises dans la décarbonation des transports, notamment à travers des projets comme ceux que l'on peut rencontrer ici à Drive to Zero?
Alors Mobile Impulse, en fait, donc c'est un réseau qui combine à la fois des acteurs publics, des acteurs privés. C'est un réseau qui est né, faut avoir en tête un petit peu l'historique, dans les années 70,
oui.
Un moment où on se déplaçait pas si facilement, où on communiquait pas aussi facilement. Et au départ, en fait, Mobile Impulse, c'est vraiment des occasions, des rencontres, notamment un congrès qui a lieu au mois de janvier chaque année, au cours duquel en fait les personnes vont se rencontrer, échanger, présenter des retours d'expérience, des projets, des modèles, des simulations, toutes des, comment dire, à chaque fois qu'en fait on va mettre de la technologie, de la technique, de la donnée autour de la mobilité, c'est un sujet qui intéresse les personnes qui font partie de l'association et qui font partie de Mobile Impulse. Donc c'est comme ça, en fait, on a plein de façons de se rencontrer. On a des façons donc en live avec ce fameux congrès qui a lieu les 19 et 20 janvier 2027 l'année prochaine. Mm-hmm. On a des journées techniques qu'on fait plutôt dans les grandes métropoles régionales en partenariat avec le CEREMA. On a une revue, la revue Tech, qui a changé de maquette là récemment et qui, on a les 270 exemplaires en fait dans notre bureau. Donc elle sort de façon trimestrielle depuis janvier 73, c'est quand même assez impressionnant. Et puis on a aussi en fait des groupes de travail dans lesquels en fait vont s'impliquer de façon bénévole des gens qui ont envie d'avancer collectivement sur un sujet. Donc aujourd'hui par exemple on a un groupe de travail qui parle de l'open payment, vous savez, cette façon de payer vos transports avec juste votre carte bleue sans même acheter un titre de transport. C'est en fait le valideur et votre carte qui savent combien vous devez être débité, combien de temps votre ticket est valide, etc. etc. Et enfin nouveauté chez Mobile Impulse, en fait on va faire des formations, c'est-à-dire qu'en fait on va proposer à tous ces experts en fait de la mobilité qui n'ont pas le temps de faire des formations, de leur mettre à disposition tout l'accompagnement organisationnel et administratif pour qu'ils puissent partager ce savoir et que du coup les bonnes pratiques, les bonnes connaissances se diffusent plus vite.
En 50 ans de vie, ce secteur de la mobilité a connu pratiquement que des innovations, on va dire. Donc,
En fait, c'est le grand changement qu'on vit et qui s'incarne en fait avec ce changement de nom. Donc, l'association s'appelait ATEC ITS France. Donc, ATEC, ça voulait dire Association pour les transports, l'environnement et la circulation. ITS pour Intelligent Transport System. Mm-hmm. Et France, pour la France.
Ouais.
Pendant très longtemps, c'était une association d'ingénieurs qui parlait à des ingénieurs, sans véritablement prendre en considération l'usager final. Mais parce qu'en fait, l'usager final, il n'avait aucun moyen en fait, d'interagir avec les solutions qu'on lui mettait à disposition. Aujourd'hui, en fait, vous avez dans votre téléphone portable, vous avez sans doute Waze, vous avez peut-être une application vélo, une application pour acheter des titres de transport, vous avez peut-être une application pour suivre vos colis ou sur Vinted, ou quand vous faites livrer des courses, etc., etc. Donc en fait, l'usager final, et même l'usagère d'ailleurs, en fait, maintenant, on a tous, en fait, on vit tous en fait, ces solutions dans notre quotidien. On s'en sert, on se les approprie, et ça force en fait les ingénieurs à du coup considérer un nouveau tiers en fait dans cette conversation qui est l'usager final qui a un avis, des exigences, des remarques à faire, etc., etc. Et on le voit très bien sur ce sujet d'open payment par exemple.
Alors vous réunissez, vous nous l'avez dit, des acteurs très très variés, hein, collectivités, start-up, constructeurs, chercheurs. Quels sont les leviers les plus efficaces pour favoriser le dialogue entre ces différents mondes? Comment éviter aussi les blocages?
Alors, les blocages, souvent, en fait, ils sont... En fait, la technique, c'est justement un facteur qui est débloquant.
D'accord.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, par exemple, il y a des blocages, il y a beaucoup de blocages qui sont sur la gouvernance. C'est-à-dire, qui paye quoi, qui reçoit quoi, quel financement, etc. On le voit bien sur, je sors d'une table ronde sur la mobilité électrique, la question de est-ce qu'on fait des primes à la casse, mais alors qui est-ce qui va payer la prime sur le leasing social, qui est-ce qui va revendre les véhicules après les 2 ans en fait de ce leasing social, etc. Il y a beaucoup de, en fait les blocages, ils viennent beaucoup de la gouvernance, ils viennent pas de la technique ni de la technologie. Par contre, c'est sûr qu'avec tous les la miniaturisation, je sais pas, des circuits électroniques, il y a plein de choses qu'on voit plus du tout et qui avant prenaient énormément de place où les solutions n'étaient pas possibles. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment, en fait, finalement, on reste très humain. C'est-à-dire que, en fait, les gens se connaissent, ont évolué sur un certain nombre de projets, savent les forces, les faiblesses des uns, des autres, les trous dans la raquette, les angles morts. Et en fait, c'est en discutant que, du coup, on va élaborer des solutions ensemble. Le groupe de travail qu'on a sur l'open paiement en ce moment, c'est typiquement quelque chose qui a été lancé de façon assez spontanée à notre congrès de 2025, en disant, bon, écoutez, tout le monde est en train de faire des expérimentations dans son coin, ce serait peut-être pas mal qu'on se mette un peu autour de la table pour se dire... Voilà, ça fait quoi quand on permet aux gens de payer facilement les transports? C'est quoi les impacts sur les abonnements mensuels, sur la fraude, etc., etc.
Donc ce sera bien ça aussi chez Mobile People, à réunifier, à faire en sorte qu'on...
On met autour de la table tous les gens qui s'intéressent au sujet et on essaye de travailler ensemble pour identifier des problèmes qui soit durent depuis des années, soit ont été créés, la technologie des fois crée aussi des nouveaux problèmes, mais voilà, c'est à ça qu'on sert.
Les solutions de mobilité intelligente reposent souvent sur des technologies avancées. Je pense au data, je pense à l'IA notamment. Comment est-ce que vous garantissez que ces innovations soient accessibles, acceptées par les usagers et déployées à grande échelle sans créer de fracture territoriale?
Alors ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plus une responsabilité des collectivités locales. Et c'est vrai qu'en fait, le sujet de la mobilité, c'est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet qu'on vit toutes et tous au quotidien. Mais pour autant, on a très souvent pas la vision de ce qui se passe backstage, en coulisses. Là, par exemple, dans le nouveau numéro de la revue Tech qui va sortir la semaine prochaine, on a un article en fait sur les parkings dans les hôpitaux. On peut se dire...
On en a beaucoup parlé.
On peut se dire, vraiment, c'est pas bien de faire payer les gens dans les hôpitaux. Mais en fait, un parking d'un hôpital, c'est souvent un parking qui est dans un milieu foncier très convoité. Et en fait, si vous faites rien, il y a des petits malins qui vont pas à l'hôpital, mais qui vont au truc à côté, qui vont venir se garer à la place des soignants qui en ont besoin, des malades qui en ont besoin, des visiteurs qui en ont besoin. Donc en fait, voilà,
c'est pour éviter l'anarchie, en fait.
Voilà, exactement. Et cette question de l'exploitation, de la maintenance, du déploiement. Le déploiement, c'était un des sujets de Drive to Zero. Par exemple, faire rouler un camion électrique, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de créer une station-service dans laquelle il y a 45-50 camions qui vont venir s'approvisionner et qui veulent repartir 3/4 d'heure plus tard en ayant chargé leur batterie. Bon, ça, en fait, vous imaginez bien que 45 camions qui veulent faire une charge complète en 45 minutes, ça veut dire qu'en fait, il faut amener une quantité d'électricité monumentale. Bon, vous le faites une fois. La question, c'est quand vous le faites sur toutes les autoroutes de France et toutes les 100 km ou 150 km. Voilà, la question, c'est vraiment... C'est jamais bloquant au niveau individuel. C'est toujours le déploiement qui pose question. Et c'est là où, en fait, on a besoin que les collectivités locales, en fait, elles comprennent bien les solutions qui leur sont proposées pour qu'elles achètent les bonnes solutions. Et des solutions qui soient justement accessibles à toutes et à tous.
Le salon Drive to Zero met en avant aussi des solutions pour réduire l'empreinte carbone des transports. Quel est selon vous le principal défi pour les acteurs français, les entreprises ou les collectivités, dans cette transition? Comment Mobile Impulse peut les aider à le relever?
Alors, sur la décarbonation des transports, en fait, le principal enjeu, moi j'ai envie de dire, c'est de casser la force des habitudes. En fait, les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. En termes de mobilité, vous ne changez d'habitude de mobilité que quand soit vous déménagez, soit vous changez de travail. Si vous réfléchissez à votre cas personnel, vous êtes c'est en train vrai. De vous dire oui, c'est exactement ça. Voilà, parce que des fois, en fait, vous n'avez pas le choix, puis des fois, parce que en fait, vous avez l'habitude, vous avez une voiture, vous dites tiens, pourquoi je la prendrais pas, etc., etc. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui va être difficile. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans la période qu'on vit et qui est assez dramatique, mais là, les derniers chiffres disent que la consommation d'essence aurait baissé de 14% au mois de mai, juste à cause du prix de l'essence. 14%, c'est considérable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas un consultant, il n'y a pas une boîte de conseil qui va dire au gouvernement, je vous propose qu'on baisse de 14% la consommation de carburant. Mais en fait, les gens l'ont fait. Les gens, ils ont tous levé le pied, ils ont tous réfléchi, ils se sont tous retrouvés à la pompe avec une facture carte bleue ou je ne sais quoi qui était extrêmement élevée par rapport à d'habitude. Ils ont tous levé le pied. Bon, bah, du coup, voilà. Et on... Alors là, c'est facile parce que c'est exogène, mais ça montre bien que, en fait, quand on casse les habitudes, on est en capacité de changer. Mais il faut avoir le courage de dire aux gens, bah, vos habitudes sont plus tout à fait les bonnes par rapport aux challenges qu'on doit relever.
Et là aussi, vous faites de l'information chez Mobile Impulse pour ces changements d'habitude. La mobilité durable nécessite bien sûr des investissements importants. Quel modèle économique innovant voyez-vous émerger pour financer ces projets et comment vous pourriez contribuer à les promouvoir?
Alors, nous, chez Mobile Impulse, en fait, on a deux convictions. On avait fait un cahier d'acteurs pour la conférence Ambition France Transport de l'année dernière, qui était justement sur comment on trouve des financements pour financer les infrastructures, les maintenir, les régénérer, voire éventuellement peut-être un jour en créer d'autres. Et en fait, on avait deux convictions. On avait une première conviction qui était qu'il fallait vraiment faciliter en fait, le paiement du coût associé à ce déplacement. Donc on a ça à la fois quand on paye avec sa carte bleue, mais on a des nouveaux systèmes de billettique pour les transports en commun, mais aussi sur l'autoroute. Par exemple, vous avez le système de reconnaissance des plaques sur l'autoroute où en fait maintenant vous avez pu à chercher des pièces au fond de votre poche, est-ce que j'ai bien pris ma carte bancaire, etc. Vous passez, vous êtes enregistré, la caméra elle reconnaît et hop, vous êtes prélevé. Bon, ce truc là ça, mine de rien, ça facilite la vie de tout le monde et ça facilite aussi le recouvrement des recettes. Et puis il y a aussi cette conviction que, en fait, avec la technologie, avec le numérique, on va pouvoir mieux dimensionner les projets et aller dans une meilleure direction. Je vous explique, il y a encore pas si longtemps que ça, les collectivités locales, en fait, une fois toutes les 10 ans à peu près, elles faisaient ce qu'on appelait une enquête ménage déplacement, qui consistait en fait à faire un espèce d'énorme sondage auprès d'un échantillon représentatif de la population, blabla. Ça coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça mettait entre 6 mois à 18 mois à sortir. Et une fois que c'était sorti, c'était déjà obsolète. Et puis on vivait avec pendant 10 ans et puis au bout de 10 ans on recommençait, etc. Bon bah maintenant en fait on fait plus ce truc là, a totalement disparu.
Les choses évoluent trop vite.
Voilà. Alors les choses évoluent trop vite et puis c'est aussi que maintenant par exemple avec les traces des téléphones portables que vous traitez de façon anonymisée, vous allez avoir en fait des résultats qui vont être bien plus pertinents, bien plus fins, bien plus rapides et du coup en fait c'est au lieu où vous dépensiez plusieurs centaines de milliers d'euros, vous allez dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un résultat qui sera largement meilleur. Donc ça montre bien en fait que la technologie ça peut beaucoup aider quoi.
Alors si on se projette un petit peu, comme on aime bien le faire ici sur ce plateau, alors on va dire 2030, même si moi, je vous disais c'est, en préparant cette interview, je vous disais c'est demain, vous me dites bon, ça va être 3 ans et demi, on a encore le temps quand même. En 2030, à quoi ressemblera la mobilité en France, selon vous, si les objectifs de décarbonation sont atteints?
Je pense qu'on aura beaucoup plus de voitures électriques sur les routes. Je pense qu'on roulera moins vite aussi sur les routes, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les possesseurs de véhicules électriques apprennent assez vite. C'est que si vous roulez moins vite, vous roulez plus longtemps, paradoxalement. Ouais. Parce que un demi de MV carré, la physique est têtue. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'on roulera aussi avec peut-être des véhicules qui seront plus partagés, où on se les prêtera plus les uns aux autres. On aura un véhicule aujourd'hui, ça, c'est à l'arrêt 95% du temps. C'est quand même énorme. Donc j'espère que du coup en 2030 effectivement on arrivera à se dire il y a des systèmes pour qu'on partage nos bornes de recharge, nos véhicules.
Mais là aussi il faut faire changer les habitudes peut-être.
Et j'espère du coup que aussi ce que je disais dans la table ronde à laquelle j'ai participé, j'espère aussi qu'en 2030 il n'y aura plus du tout de publicité depuis longtemps sur des véhicules thermiques, parce qu'en fait si on veut que les gens y passent à l'électrique, il ne faut pas qu'on les encourage à acheter des véhicules thermiques. Enfin je veux dire c'est et les constructeurs auto font déjà énormément de publicité pour les véhicules électriques. Ils savent le faire, il n'y a pas de souci là-dessus quoi.
Pour terminer cet entretien, Marie-Xavier Vauquiez, vous qui avez fondé l'association Femmes en Mouvement, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce milieu de la mobilité qui est présent, bien évidemment ici à Drive to Zero, reste encore un milieu trop masculin?
En fait, ça s'explique. Faut avoir en tête que ça fait que 100 ans que les femmes passent le même bac que les hommes. Donc en fait, avant, on passait pas les matières dures, les sciences physiques, les maths, etc. avant 1924. Donc en fait, vous avez énormément de gens qui sont des ingénieurs, qui ont passé. Les ingénieurs transport sont des ingénieurs passionnés, qui travaillent très longtemps et qui sont encore là alors qu'ils ont été diplômés dans les années 70. Et du coup, en fait, dans ces années-là, il y avait très peu de femmes. Et donc en fait, le temps que ça change, en fait, ça met du temps à arriver. Pour autant, on sait que quand on met des points de vue complémentaires sur des projets, en fait, on les améliore pour tout le monde. Donc, par exemple, sur la sinistralité routière, qui est l'exemple phare, le premier facteur, en fait, pour tuer quelqu'un sur la route, c'est pas la drogue, c'est pas le sommeil, c'est pas la vitesse, c'est le fait d'être un homme. Les statistiques sont implacables sur le sujet. Et donc, voilà, c'est entre 85 et 90% de morts sur les routes qui sont des hommes tués par d'autres hommes. Donc j'espère aussi en 2030 qu'il y aura, enfin voilà, on conduit mieux, voilà, on conduit mieux. Et je pense que du coup on conduit mieux aussi les véhicules électriques parce qu'il n'y a pas cette fascination pour le bruit du moteur, ce genre de la vitesse de l'accélération, etc. Enfin, je trouve que entre l'électrique et le thermique, il y a plein de dimensions de changement. C'est pas qu'une question en fait de moteur, c'est une question de beaucoup d'autres choses en fait.
À suivre donc. Puis je sais que vous, de toute façon, vous contribuez avec Femmes en Mouvement et aussi par votre opposition chez Mobile Impulse à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes dans.
En tout cas, on pousse des noms de femmes quand on nous dit cette table ronde, j'arrive pas à trouver des femmes. Nous, on arrive et on leur dit 5, 6, 7, 8 noms. Faites votre marché, vous devriez y arriver maintenant que le plus dur, c'est toujours la force de l'habitude. Ouais. C'est vraiment de se dire est-ce que j'invite les bonnes personnes, est-ce qu'il n'y a pas eu des changements plutôt que voilà. Et en fait ça marche plutôt bien, ça marche pas encore toujours, mais on progresse.
Voilà, sur pas mal de sujets, cassons nos habitudes.
Exactement.
Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir et de vous écouter. Marie-Xavier Wauquiez, je rappelle que vous êtes déléguée générale de Mobile Impulse. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.